Il est 8h sur Europe 1.
Nous allons mettre à disposition des lingettes pour que justement à chaque fois eux-mêmes puissent prendre le réflexe de descendre avec la lingette à la main.
Des lingettes, de la javel sur les claviers et un nettoyage de la clim. On s'active dans les entreprises pour réussir le défi du 11 mai. Les patrons seront-ils responsables en cas de contamination d'un salarié sur son lieu de travail? C'est toute la question. L'un d'entre eux, en direct, nous confiera son état d'esprit à J-6. Dans les hôpitaux français, les EHPAD, 25 000 morts plus tard, alerte sur le moral de nos soignants. Il y a un risque de stress post-traumatique.
On tient des postes de 12 heures. Psychologiquement, je suis fatiguée et apeurée.
Vincent Hervouette nous dira comment le téléthon du coronavirus a récolté des milliards d'euros et un peu de fierté européenne. Et puis, le cinéma, lui aussi, pense à son déconfinement. Dans la salle, on évitera de partager un seau de pop-corn, mais à l'écran, il y aura toujours des bisous.
On a déjà, il faut le savoir, avant chaque tournage, une visite médicale des acteurs. Si aujourd'hui, ils sont testés non porteurs du Covid, qui s'embrassent, elles ne vont pas choper le Covid. Hein.
À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Franck Riester, le ministre de la Culture. Vous dialoguez avec lui ensuite à partir de 8h30. Vos questions au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. À 8h45, Nicolas Canteloup, bien sûr, et sa revue de presse. Il est 8h01 sur Europe 1. Le journal avec François Geffrier. Très bon réveil à tous.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Reprendre le travail, oui, mais en évitant que la photocopieuse multiplie le Covid, que les portes de l'ascenseur se referment comme un piège ou que la cafétéria se transforme en cluster. Vous imaginez peut-être en ce moment votre bureau avec les 4 mètres carrés obligatoires par personne, c'est dans 6 jours.
Il faut donc faire vite. Exemple chez Doublet, société spécialisée dans les barrières et les drapeaux. 40 salariés sur 120 sont aujourd'hui présents dans les murs. Dès lundi, ils seront bien plus nombreux. Le reportage de Maximilien Carlier.
À l'entrée du bâtiment, un portant avec du gel hydroalcoolique. Port du masque obligatoire. Au rez-de-chaussée, les ateliers et puis un escalier pour accéder au bureau.
Nous allons mettre à disposition des salariés, des lingettes.
Gaëlle Collard-Doublé, directrice générale.
Pour que justement, à chaque fois, eux-mêmes puissent prendre le réflexe de descendre avec la lingette à la main ou à l'inverse, de monter avec la lingette à la main.
Dans l'open space quasi vide, les ordinateurs sont éteints. Il y a une fine couche de poussière sur les claviers, pas utilisée depuis presque 2 mois.
Ce que l'on a prévu, c'est prendre tout ce qui est sur les bureaux, les mettre dans des cartons et de tout laver à l'eau de Javel. On a également une climatisation. Donc cette semaine, on est en train de regarder comment faire nettoyer cette clim. On va regarder comment augmenter les cloisons. Des cloisons plus hautes pour aussi favoriser la création d'espaces de travail fermés pour les protéger.
Et les salariés auront encore accès à la fameuse machine à café.
On en a besoin.
Mais ils devront avoir de nouvelles habitudes à partir du 11 mai.
Et on nettoie à chaque utilisation.
Avelin, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et parmi les patrons, c'est le sujet qui inquiète très fortement ces jours-ci. Peuvent-ils être attaqués devant les tribunaux à cause du coronavirus?
Il y a en effet une vraie insécurité juridique. Les chefs d'entreprise craignent que leur responsabilité soit en cause si un collaborateur tombe malade. 6 organisations patronales, du MEDEF aux agriculteurs de la FNSEA en passant par l'économie sociale, viennent d'écrire à la ministre du Travail. Vous allez nous éclairer, Olivier Samin.
Ce que redoutent les patrons, c'est de voir un jour des entreprises condamnées pour contamination de leurs salariés sur leur lieu de travail. Condamnées parce que, comme pour l'amiante, les juges estimeraient que, s'agissant du Covid-19, les entreprises sont tenues à une obligation de résultat. Or, affirment les signataires de la lettre, en matière de sécurité, c'est une obligation de moyens qui s'applique. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité et la santé de ses salariés. Pour les 6 organisations patronales, il faut s'en tenir aux risques générés par l'activité de l'entreprise elle-même, pas à un risque sanitaire général dont l'entreprise n'est pas à l'origine. D'où l'appel au gouvernement pour clarifier les choses dans la loi. Et justement, hier, les sénateurs ont adopté en commission un amendement qui précise en substance qu'il faut la faute intentionnelle de l'employeur pour que sa responsabilité puisse être engagée. Commentaire d'un dirigeant patronal hier soir, ça nous va très bien.
Luc-Éric Krief, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes administrateur et membre du bureau du MEDEF Île-de-France, président du GIPCO. C'est le groupement des industries de plasturgie et composite. Pour la reprise de l'activité économique, énormément d'incertitudes. Les règles sanitaires au sein de l'entreprise, les enfants à l'école, les transports et les gestes barrières, le télétravail. Pour vous, pour vous organiser, c'est un problème d'avoir autant d'incertitudes?
Ah oui, ça devient un problème cornélien même, je dirais. On est dans une situation qui est très compliquée pour les entrepreneurs et les entreprises de manière générale. Tout d'abord, vous avez vu qu'au niveau de la reprise de l'école, il va y avoir un petit souci puisque 70% des parents avouent ne pas désirer voir leurs enfants retourner à l'école. Donc déjà, il y a une grosse incertitude sur la présence des parents lundi matin à la reprise du travail. La deuxième chose, et vous venez tout juste de le signaler, ce sont les mesures sanitaires qui sont imposées en termes de sécurité de la part des salariés. Et c'est vrai que le risque pénal de l'employeur, il n'est quand même pas anodin. Il est même, c'est pratiquement une épée de Damoclès qui pèse sur la tête de chaque employeur aujourd'hui.
Il y a la crainte des droits de retrait de salariés et même de procédures donc contre les employeurs. C'est dans ce contexte que vous rouvrez. Dans les entreprises moyennes et grandes, il faut négocier avec les instances représentatives. Quel est l'état du dialogue social à 6 jours de la reprise?
Ben écoutez, il y a des organisations syndicales avec lesquelles ça se passe plutôt bien, d'autres qui sont connues, dont je n'ai pas cité les noms, parce que tout le monde, tous vos auditeurs trouveront facilement le lien avec la C et le T qui se terminent.
Donc on se retrouve... Si vous dites de l'aide, dites les trois à la CGT, allez-y, continuez.
Voilà, CGT, voilà. Donc en fait, si vous voulez, où on a des mises en demeure avec notamment des saisines de l'inspection du travail qui sont faites par certains syndicalistes au sein des entreprises, pour inciter l'employeur à ne pas voir le travail reprendre au sein de son entreprise, mais surtout le risque pénal, puisque systématiquement, c'est les mesures barrières qui ne sont pas mises en avant, qui ne sont pas mises en place par le chef d'entreprise qui sont évoquées par la CGT. C'est le risque sanitaire, bien évidemment, et de contamination en général au niveau des salariés. Et puis, notamment dans l'industrie, où, si vous voulez, la distanciation sociale est quand même très compliquée à mettre en œuvre, parce que vous vous retrouvez des fois dans des petits ateliers où la mitoyenneté, malheureusement, elle prime. Et c'est très compliqué d'avoir ces barrières sociales ou ces barrières sanitaires qui sont mises en place.
Merci, Luc-Éric Krief, membre du bureau du MEDEF Île-de-France, invité en direct ce matin du journal de 8h d'Europe 1.
Et ce matin, celui qui représente les artisans et commerçants, le patron de l'Union des entreprises de proximité, Alain Griset, demande la prolongation des mesures de chômage partiel jusqu'à la fin de l'année. Il était en direct sur Europe 1 à 7h moins le quart. Avec le retour au travail, certains salariés qui s'étaient mis au vert voient rouge désormais, et ce n'est pas sans lien avec la carte de France colorée, celle-là même qui va déterminer les conditions du déconfinement localement, car ils sont nombreux, ceux qui, chaque jour, passent d'un département à l'autre pour aller travailler. Les salariés interrogés par Élise Dangean ont de vraies inquiétudes.
Chez nous, on n'a pas été touché plus que ça. Donc en fait, moi je me dis, potentiellement, je peux ramener la maladie et contaminer les personnes.
À partir de lundi, Jérémy va reprendre ses trajets quotidiens entre Cherbourg, où il vit, et Paris, où il travaille. Ça hantise, ramener le virus dans ses bagages. D'autant que ce père de famille est contraint de prendre les transports collectifs, train, métro, bus, là où la distanciation sociale lui semble bien difficile à respecter.
Déjà de base, même en commençant très tôt le matin, les trains sont pleins, il y a toujours du monde. Il faut fréquenter les transports pour comprendre que ça va être super compliqué.
Passer du vert au rouge, c'est ce que s'apprête à faire Hugo et sa compagne, confinés dans leur maison familiale près de Montpellier. Tous les deux reprennent le travail lundi, il faut donc rentrer en région parisienne, et ce n'est pas la maladie qui les inquiète, mais plutôt de retrouver une vie bien vide.
Bah là, ça va être de nouveau me réenfermer dans 40 mètres carrés, de ne pas pouvoir bouger, retrouver des magasins qui sont quasiment vides, les parcs ne sont pas réouverts, donc on ne peut pas faire grand-chose de plus, si ce n'est a priori aller travailler.
Et pour tous, la même inquiétude, le trafic ferroviaire qui s'annonce très réduit malgré le déconfinement.
Toujours en économie, encore un symbole d'un géant qui vacille. General Electric, GE pour les intimes, de cet empire industriel américain de 128 ans. GE supprime un quart de ses postes dans l'aéronautique.
Cela représente 13 000 emplois au total. Le groupe est fournisseur de moteurs pour Airbus et Boeing. Et puis c'est aujourd'hui que la Cour fédérale allemande, la plus haute juridiction chez nos voisins, se penche sur l'indemnisation des clients de Volkswagen. Une procédure qui aura un impact sur 68 000 dossiers individuels. L'affaire qui a éclaté en septembre 2015, le Dieselgate, a déjà coûté 30 milliards d'euros aux constructeurs.
Europe 1. Vous restez bien sur Europe 1 dans un instant, le syndrome post-traumatique qui menace nos soignants. Nous verrons comment les aider, à tout de suite.
À la MAF, tous nos conseillers sont mobilisés à vos côtés. Même à distance, ils restent à votre écoute et vous accompagnent. Contactez-nous sur l'espace client de MAF.fr ou à l'adresse service.client@maf.fr.
La suite du journal de 8h avec ce trouble qu'on observe souvent après un attentat ou une guerre et qui touche aujourd'hui le personnel soignant.
Oui, le syndrome de stress post-traumatique pour ceux qui sont en première ligne depuis plus de 2 mois et qui ont vu des dizaines de patients être emportés par la maladie. La crainte d'une deuxième vague est donc d'autant plus forte. Jeanne Bergaoui pour Europe 1 a recueilli leurs témoignages.
Psychologiquement, je suis fatiguée et apeurée.
Il y a la peur d'être contaminée, de ramener le virus à la maison. Et le travail quotidien éprouvant, témoigne Audrey, infirmière à Lille.
On tient des postes de 12 heures, forcément nous tombons de fatigue, c'est le cas de le dire.
Cet épuisement pousse des soignants à contacter des plateformes de soutien psychologique. En un mois, l'association Soins aux professionnels en santé a reçu plus de 2500 appels. C'est autant qu'en 2 ans. Mais pour le président de SPS, Éric Henry, des troubles plus importants apparaîtront à la sortie du confinement.
Quand le rideau se ferme, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est le grand vide, c'est la dépression que vont faire beaucoup de soignants d'avoir donné beaucoup. Il faut vraiment être bien accroché pour passer au travers de tout ça sans avoir de cicatrices.
Souffrance, hallucinations, cauchemars sont des signes du stress post-traumatique. Le soignant revit alors un événement en boucle, explique la psychiatre Nathalie Prieto.
L'événement qui se revit en images, en sons, est toujours revécu avec la même charge émotionnelle qui finit par être très toxique.
Ces experts appellent à la mise en place de dispositifs dans chaque hôpital, mais aussi pour les soignants qui exercent dans les EHPAD ou en libéral, des sas de décompression anonymes et confidentielles pour évacuer cette charge émotionnelle.
Notons que le nombre de patients en réanimation aujourd'hui est encore en baisse. Ils sont un peu moins de 3700 et 51 300 personnes sont sorties guéries des hôpitaux depuis 2 mois.
On vous parlait hier de cette collecte de fonds mondiale pour financer la recherche scientifique contre le coronavirus. Opération réussie.
Oui, 7 milliards 400 millions d'euros récoltés depuis Bruxelles. Un joli coup pour la Commission. Vincent Hervouette.
Dans une vie antérieure, Ursula von der Leyen a été médecin. La présidente de la Commission européenne est si glaçante qu'on se dit qu'elle devait être médecin légiste. Pourtant, hier, elle a tenu son rôle d'animatrice de Téléthon. 3 heures, sans chanson, sans vedette, sans une larme. Mais la cause est bonne, le compte est bon, elle a fait cracher au bassinet 40 pays, fondations, organisations, 7 milliards et demi d'euros collectés. C'est 100 fois le Téléthon, c'est la somme qui manque, selon les experts, à la recherche du vaccin et des traitements.
Oui, alors vous avez regardé de plus près, Vincent, ça n'est pas que de l'argent frais.
Oui, par exemple, on comptabilise ce qui a été dépensé depuis 3 mois dans la recherche. Et quand on regarde d'encore plus près, on voit les absents à cette plateforme mondiale, les États-Unis, la Russie, l'Inde, la Turquie. Pour l'Afrique, il y a juste les Sud-Africains. Pour le monde arabe, seulement les Saoudiens. Et de la part de la Chine, juste un pourboire, 50 millions. L'important est ailleurs. L'Europe se lance dans la course au vaccin avec l'ambition d'en faire profiter le plus grand nombre. L'Europe est motivée, elle est la plus touchée. Le coronavirus peut même tuer l'Union européenne. En prime, ce téléthon a permis à la présidente von der Leyen d'exister. À force de faire des téléconférences, elle pourrait même prendre goût à la télé-réalité.
Le regard international de Vincent Hervouet, c'est tous les jours dans le journal de 8h d'Europe 1. Et mieux encore que la télé-réalité dont nous parlait Vincent, il y a les films. Je sais que ça vous inquiète, Mathieu. Verra-t-on toujours des baisers de cinéma?
La réponse, Mathieu Charrier va nous la donner. Il faut dire que tout le secteur est à l'arrêt, les salles et les tournages.
Les salles de cinéma se disent prêtes à rouvrir, avec masque et gel hydroalcoolique dans les halls, possibilité d'enlever son masque pendant la projection, mais en laissant un siège de libre entre chaque spectateur, puis une désinfection systématique entre chaque séance. Encore faut-il avoir des films à montrer, car aujourd'hui, tous les tournages sont arrêtés, et pour pouvoir reprendre, il faut définir un cadre, explique le producteur Dimitri Rassam, qui a dû interrompre le tournage d'Envole-moi de Christophe Baratier, porté notamment par Gérard Lanvin.
On a préemptivement commandé des masques, commander des gels hydroalcooliques, commander des visières, des gants.
Et comment on fait pour appliquer les mesures barrières si 2 acteurs doivent s'embrasser, par exemple?
On a déjà, il faut le savoir, avant chaque tournage, une visite médicale des acteurs. Si aujourd'hui ils sont testés non porteurs du Covid, qui s'embrassent, elles vont pas choper le Covid. Il y a un surcoût à ça. Il me semble naturel que les assurances soient amenées à participer à l'effort.
Enfin, il faut que lors de la réouverture des salles, il y ait de gros films qui sortent, des locomotives, et ce n'est pas gagné. Certes, Kaamelott d'Alexandre Astier, Mulan de Disney, Bob l'Éponge ou le nouveau Christopher Nolan sont attendus en juillet, mais encore sous la menace d'un décalage en fonction de la situation sanitaire dans le monde entier. Même la sortie du nouveau James Bond, prévu pourtant en novembre, pourrait être finalement décalée à l'année prochaine.
Mathieu. Mathieu Charrier. Bon, ça nous laisse encore un peu de temps pour retrouver notre smoking.
Oui, vous l'envoyez au pressing quand celui-ci aura rouvert ses portes avant les cinémas. Merci François Geffrier, c'était le journal de 8h. Il est 8h15, vous êtes sur Europe 1 de cinéma, on va en parler dans la demi-heure qui vient. Nous retrouvons à présent Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La culture, pourtant essentielle à notre économie, vitale pour notre épanouissement, semble être la grande oubliée en cette crise majeure. Mais où est donc le ministre de la Culture, se demande-t-on ? Il est sur Europe 1 ce matin et beaucoup attendent de Franck Riester des réponses à la hauteur de ce qu'incarnait autrefois la rue de Valois. Entretien à suivre.
Et les questions de nos auditeurs de 8h30 à 8h45, vous vous inscrivez maintenant au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. A tout de suite. 8h17 sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk, c'est le ministre de la Culture, Franck Riester.
Bonjour Franck Riester.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Et tout d'abord, monsieur le ministre, où étiez-vous ? Où étiez-vous tous ces jours, ces semaines où le monde de la culture frappé de plein fouet par l'épidémie appelait et appelle encore à l'aide ? Où étiez-vous ?
Au travail. Vous savez, le Premier ministre nous a appelés à faire preuve d'humilité combative. Et c'est ce que j'essaye de mettre en œuvre en étant au travail avec les équipes du ministère de la Culture que je tiens à saluer, qui font un travail exceptionnel, et au contact des organisations syndicales, au contact des organisations professionnelles pour prendre les mesures qui s'imposent pour sauver la culture. Vous savez, Sonia Mabrouk, la crise que nous traversons collectivement est terrible. Elle est tout particulièrement terrible pour le secteur de la culture. Et je dois dire que ce qui se joue ici, c'est la capacité à notre pays de rester un pays de culture. Tout cet écosystème bâti au fil des années et qui est une richesse exceptionnelle pour notre pays, dont on est très fier et qui est si importante pour nos compatriotes, on l'a vu pendant le confinement, et on va le voir avec la sortie de la crise, eh bien, que cet écosystème soit préservé. Alors j'ai tout de suite pris des mesures d'urgence importantes, en lien avec mes collègues du gouvernement, pour que ces mesures transversales pour sauver l'économie puissent être accessibles au monde de la culture. L'accès au chômage partiel, l'accès à un fonds de solidarité pour notamment les artistes auteurs, la question de la modification des règles d'accès à l'intermittence, on pourra en reparler si vous le souhaitez, pour faire en sorte que les intermittents ne soient pas pénalisé par cette crise, ou pas trop pénalisé par cette crise.
Parlons-en tout de suite, Franck Riester.
L'accès aux prêts garantis par l'État. Mm-hmm. Oui.
Est-ce qu'il y aura une année blanche pour les intermittents, autrement dit le prolongement de 12 mois des droits à l'assurance chômage ? On vient de l'entendre dans notre journal il y a quelques instants. Il vous interpelle à questions précises, réponse ?
La réponse, c'est que nous avons déjà pris des mesures d'urgence pour que dans la période du confinement, de la crise sanitaire, les intermittents du spectacle, les artistes, les techniciens puissent bénéficier toujours de leurs droits et qu'ils puissent bénéficier du chômage partiel. C'est-à-dire que les employeurs qui les emploient puissent avoir accès au dispositif de chômage partiel. Et c'est le cas, et c'est très important, et je le redis aux employeurs, profiter de ce dispositif que met à disposition l'État pour rémunérer les intermittents du spectacle qui avaient des spectacles ou des événements culturels prévus.
Monsieur
ensuite, il y a bien évidemment l'avenir. Ensuite,
voilà.
Vous savez, on peut pas dire rien n'est fait par le ministère de la Culture et pas quand j'ai l'occasion, comme je l'ai ce matin, et je vous en remercie Sonia Mabrouk, de réinsister sur déjà tout ce qui a été fait. Ensuite, bien évidemment, on en est conscient, ce n'est pas suffisant. Pour l'avenir, parce que on voit bien que la crise, malheureusement, elle va durer, et donc il faut avoir des dispositifs d'accompagnement dans la durée. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec les organisations syndicales, avec Muriel Pénicaud, pour trouver un dispositif qui permette continuation d'un accompagnement. Est-ce que ça sera une année
blanche pour les intermittents, qui, je le rappelle, vont se retrouver à court terme sans ressources et radiés de Pôle emploi? Comment les protéger?
Oui, mais on les a protégés dans la crise et on veut les protéger après la crise.
Mais elle dure encore.
Oui, elle dure encore. Et donc aujourd'hui, les dispositifs existent et ils sont protégés aujourd'hui. Il y a encore un certain nombre, pour autant d'artistes et de techniciens, qui bénéficient ou qui pourraient bénéficier du système de l'intermittence, qui y sont exclus et qui bénéficieront d'un fonds de professionnalisation, un fonds de solidarité sociale qui est travaillé avec Audience aujourd'hui, avec les professionnels du secteur, et qui leur permettra d'avoir des aides. Et pour ce qui concerne l'avenir, nous sommes déterminés, je vous le dis ce matin, nous sommes déterminés à avoir un dispositif qui les protège sur le temps long.
Monsieur le ministre, vous ne savez pas encore, vous ne pouvez pas nous dire ce matin s'il y aura une année blanche qui est essentielle pour ces intermittents.
Je ne peux pas vous le dire ce matin. Vous comprenez bien que ça nécessite des évaluations négociation, ça nécessite des discussions, ça nécessite de ensuite le partager avec mes collègues du gouvernement. La détermination qui est la mienne, c'est que oui, il y a des dispositifs sur le temps long, sur plusieurs mois, pour permettre d'accompagner cette richesse humaine et créative que sont les artistes et les techniciens qui sont dans le régime des intermittents.
Oui, mais est-ce que ça restera une richesse longtemps ? Il y a urgence.
Mais c'est tout l'enjeu. Vous avez raison. Écoutez, vous savez, Sonia Mabrouk, il faut juger sur les actes. Les actes, c'est quoi ?
Mais c'est ce que le monde de la culture fait avec vous, monsieur le ministre.
Oui, et bien justement, le monde de la culture peut voir que les mesures qui ont été prises pour la préserver pendant la période de la crise sanitaire sont fortes et puissantes, comme ça n'existe que dans très peu de pays. Mmh. Et aujourd'hui, les intermittents n'auraient pas pu avoir leurs droits si nous n'avions pas pris les décisions fortes que nous avons prises.
Alors avançons.
Pour autant, bien évidemment, je vous le dis, je suis convaincu qu'il faut que ces mesures perdurent le temps de la perturbation de leur activité par la crise du Covid-19. Je ne peux pas vous dire plus aujourd'hui que ça, mais la détermination est évidemment totale parce que c'est clé pour l'avenir
Franck
de la culture de notre pays.
Concernant les salles de spectacle et de cinéma, si on ne connaît pas encore la date de réouverture, vous pouvez nous dire si ce sera une réouverture nationale ou alors adaptée en fonction des territoires et donc de la carte de circulation du virus.
Alors, là aussi, nous travaillons avec les organisations syndicales et professionnelles.
Ça, on a
leur
compris
volonté...
que vous travaillez.
Oui, oui.
Mais quelle décision
de...
Mais vous avez raison. Mais on attend le concret.
Sonia, j'essaie de vous le dire. Sonia Mabrouk, la volonté la Fédération du cinéma français, c'est que la réouverture se passe en même temps partout en France. Le problème, vous l'avez compris, c'est que le virus, il ne circule pas de la même façon partout en France. Et donc, nous avons besoin avec eux de continuer à discuter pour savoir si il serait malgré tout possible d'avoir des ouvertures dans des zones où le virus circule moins, ou s'ils préfèrent vraiment ouvrir en même temps partout en France. En tout état de cause, il y a besoin d'un délai. Ils nous disent qu'il y a au moins 4 semaines de délai entre le moment où la décision de réouverture sera prise et le moment où effectivement l'ouverture sera effective. Et c'est ce que nous sommes en train de voir avec eux. Ce qui est certain, c'est que nous avons la volonté que les salles de cinéma rouvrent. Bien sûr, en respectant la sécurité pour les spectateurs. Parce que
et les préconisations qui sont contenues notamment, monsieur le ministre, dans le rapport du professeur Bricaire. Distance entre les sièges, port du masque, etc.
Alors, c'est ça qui est actuellement discuté au sein de la fédération professionnelle, au sein de la branche professionnelle des salles de cinéma, en lien entre les organisations professionnelles et les organisations syndicales. En lien, bien évidemment, avec le ministère de la Culture et le ministère
de
la
Santé. Que de discussions.
Mais oui, je sais, mais vous savez, c'est difficile, c'est pas des sujets simples, et c'est des sujets qui met en jeu à la fois la santé de nos compatriotes et l'avenir économique de ces acteurs de la culture. Donc, nous voulons rouvrir le plus rapidement possible, mais nous le ferons pas sans prendre en compte la réalité sanitaire, la réalité de l'évolution de l'épidémie, et sans tenir compte aussi des besoins financiers des salles de cinéma pour rouvrir. Nous travaillons aussi pour qu'il puisse y avoir un accompagnement à cette réouverture, pour inciter nos compatriotes à revenir dans les salles de cinéma. Nous travaillons par exemple sur la question de la fête du cinéma à la rentrée. Nous travaillons sur des dispositifs d'accompagnement financier pour nos compatriotes pour qu'ils viennent davantage au cinéma demain. Mais vous comprenez bien qu'aujourd'hui, le déconfinement est progressif et on espère que le plus rapidement possible ces salles
de
cinéma.
Certains vont quand même rouvrir dès le 11 mai, au même titre que les médiathèques et les bibliothèques, les petits musées sont autorisés justement à rouvrir. Mais c'est quoi un petit musée ? Est-ce que c'est en fonction de la taille ou de la fréquentation ? Je vous donne un exemple. Je sais que le Louvre et Versailles vont attendre. Mais la maison de Monet à Giverny pourra-t-elle rouvrir le 11 mai ou encore le musée Paul-Valéry à Sète ? Qu'en est-il ?
Alors l'idée, c'est que ce qu'on dit petits musées, c'est des musées qui, de par leur jauge et de par surtout le rayonnement de celles et ceux qui viendront dans ces musées ou dans ces monuments, parce qu'il n'y a pas que les musées, il y a aussi les monuments historiques qui sont concernés, ne soit pas un rayonnement qui fasse venir des gens de trop loin. On veut essayer de limiter les déplacements, comme vous l'avez compris. Et donc, les petits musées et les monuments qui, de par leur type de fréquentation, n'impliquent pas des déplacements importants en dehors d'un bassin de vie ou en dehors du département, pourront, s'ils respectent les conditions sanitaires, ouvrir à partir du 11 mai. Et donc les deux sites dont vous avez parlé, s'ils respectent les recommandations sanitaires, pourraient ouvrir progressivement à partir du 11 mai. Mais là, c'est aux propriétaires, de ces sites, de voir s'ils sont en capacité de respecter ces préconisations sanitaires et s'ils correspondent aux critères dont je viens de vous parler.
Monsieur le ministre de la Culture, autre exemple sur les petits festivals d'été. Vos propos ont semé la confusion. Là encore, qu'est-ce qu'un petit festival? Et continuons sur l'exemple concret. Je pense aux animations locales, aux petits festivals qui rythment par exemple les communes bretonnes. Chaque été, vous le savez, il y a les lundis musicaux, les mardis de Morga, les mercredis d'Aradon, les jeudis du port de Brest. Est-ce que toutes ces animations pourront se tenir?
Le président de la République avait dit dans son intervention que les grands festivals et les grands rassemblements ne pourraient pas être tenus avant le 15 juillet. Le Premier ministre a confirmé ça et même a précisé que tous les rassemblements, tous les événements culturels de plus de 5000 personnes qui nécessitent une autorisation en préfecture ne pourraient recommencer avant le 31 août. Pour autant, j'ai dit qu'effectivement, si ce n'était pour les événements culturels de taille plus petite, qui nécessitent pas ces autorisations préfectorales, il faudra regarder dans l'avenir, et nous regarderons cela fin mai, avant, vous savez,
vous allez donc l'étape
du 2 juin. Nous regarderons de quelle manière ces événements culturels de plus petite taille peuvent réouvrir ou peuvent se tenir dans les territoires d'ici à fin août. La volonté, elle est quoi? Quelle est notre volonté? Notre volonté, c'est de remettre les artistes devant leur public, de refaire en sorte que ce foisonnement
et leur urgence, c'est de vivre et même de survivre, Monsieur le Ministre,
puisse recommencer, justement pour vivre, justement pour avoir de la rémunération, et surtout peut-être, avant peut-être encore la question de la rémunération, c'est qu'ils puissent se produire, qu'ils puissent retourner devant leur public. Pour autant, on ne peut pas faire n'importe comment, on doit le faire en respectant des règles sanitaires. Ces règles sanitaires, pour l'instant, il est trop tôt pour dire exactement lesquelles elles seront, et si oui...
Mais on les connaît, Monsieur le Ministre, les règles sanitaires, les conditions depuis le début de la crise.
Oui, on les connaît, mais on ne connaît pas encore notre capacité à autoriser des rassemblements plus importants que 10 personnes pour veiller à limiter la circulation de l'épidémie. C'est pour ça que le Premier ministre a été très clair. Pour l'instant, il n'est pas possible de réorganiser des rassemblements de plus de 10 personnes avant fin mai. Et nous prendrons la décision fin mai de voir si oui ou non on peut réautoriser des rassemblements plus importants en respectant les conditions sanitaires et qui pourraient s'appliquer notamment aux petits festivals, qui ne sont pas des festivals qui nécessitent une autorisation préfectorale de rassemblement comme les grands rassemblements de plus de 5000 personnes et qui pourront avoir l'accord des collectivités territoriales, des organisateurs et des préfets dans les territoires.
Franck Riester, on va conclure. Merci d'avoir répondu à mes questions. Ce sont les auditeurs et les interpellations de ces auditeurs à présent qui vont prendre le relais. Probablement que le président de la République donnera aussi beaucoup de réponses demain, puisque Emmanuel Macron va s'exprimer à ce sujet. Et quand même une interpellation, c'est un ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, qui attend du ministère de la Culture qu'il joue pleinement son rôle. C'est important pour nous tous, évidemment, puisque c'est l'épanouissement de l'esprit. Merci Franck Riester.
Il est 8h30, vous êtes sur Europe 1, les questions de nos auditeurs à présent avec le ministre de la Culture au 3921 et le hashtag Radio Ouverte pour intervenir. À tout de suite.
La matinale d'Europe 1.
Mathieu Béliard. Sur Europe 1, en direct avec le ministre de la Culture, Franck Riester. Vous me recevez bien, Franck Riester?
Oui, tout à fait, Mathieu Béliard.
Alors ne perdons pas de temps parce qu'il y a énormément de questions au 3921. Accueillons Sophie qui est dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Sophie.
Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour, ma...
Voilà, je me permets de vous exposer mon cas qui suivra de deux questions très précises. Je suis directrice de production et je vais commencer à préparer une nouvelle série Stoppé Net dans son envol à compter du 13 avril. Aujourd'hui, donc certainement repoussée peut-être au 20 juillet, mais c'est très hypothétique. Mon employeur me dit qu'il ne peut me proposer de chômage partiel, faute de promesses d'embauche, ça c'est une chose. Et malgré de nombreux échanges par mail et par téléphone, apparemment je ne suis pas éligible au chômage partiel. Donc que risquent les employeurs? Peuvent-ils se faire retoquer s'ils proposent le chômage partiel à un de ses employés, très bien payé puisque j'ai un poste à responsabilité? Est-ce qu'ils risquent de me devoir cet argent sans aucune promesse de l'État ou pas? Je voulais savoir et connaître leur frilosité. Et la deuxième chose, c'est que j'ai entre guillemets trop travaillé l'année dernière, donc j'ai 84 jours de carence à Pôle emploi puisque je viens d'être fraîchement recalculée. 84 jours sans aucun salaire à Pôle emploi pour lequel je cotise depuis des années. Donc je voulais savoir si ces fameuses carences ou franchises vont-elles être reportées, voire annulées, parce qu'il y a une forme d'injustice là-dedans.
Voilà. Les questions de Sophie qui sont très précises, Franck Riester, allez-y.
Très clairement, si vous avez évidemment un contrat, ce qui n'est pas votre cas, ou une promesse d'embauche, effectivement même un mail ou un engagement de la part de votre employeur d'organiser le tournage, puisque vous dites que vous deviez commencer le 13 avril, a priori cet engagement devait être précédé le 17 mars, un mois à l'avance, à ce moment-là, oui, vous pouvez bénéficier, enfin, l'autre entreprise peut bénéficier de l'accès au chômage partiel. Il n'y a pas besoin d'un document officiel pour ce faire. Juste la promesse d'embauche, la promesse de vous dire « Madame, j'ai besoin de vous sur le tournage » suffit. Et il est clair que aujourd'hui l'assurance chômage, de ce point de vue-là, sera vraiment souple sur l'application de l'accès à ce chômage partiel. En ce qui concerne les jours de carence, je n'ai pas la réponse, la technique à vous apporter, mais je le ferai évidemment, je regarderai ça de très près pour vous dire comment les choses peuvent se faire sur cette carence, parce que là j'ai pas la réponse, je préfère être honnête avec vous.
Au moins c'est clair. Sophie, sur la première question, la réponse était claire et sur la deuxième, on attendra. Merci Sophie.
Voilà, mais sur la première, il faut juste formuler que dans nos métiers, il y a beaucoup d'oralité. On nous dit d'être au bureau tel jour à telle heure. Donc les promesses d'embauche ne sont pas formulées comme je vous promets que vous êtes embauché à tel poste à telle heure.
Madame, si... Sophie, si jamais il y a quand même un mois à l'avance, des réservations éventuellement de lieux de tournage, il y a des équipes qui ont peut-être été prévues. Et donc tout ça, je peux justifier de dire, bah, attendez, oui, il y avait un tournage de prévu et j'avais besoin de quelqu'un pour piloter ce tournage chez ma directrice de tournage.
Et surtout, vous disiez, Franck Riester, que l'assurance chômage serait souple sur ce genre de...
Oui, tout à fait.
De profil. Bon, merci Sophie.
Donc, mon employeur n'a pas à être frileux alors, c'est juste ça.
Non, c'est la réponse. D'ailleurs, j'appelle, je l'ai dit tout à l'heure dans l'interview avec Sonia Madrouk, j'invite vraiment les employeurs à se saisir de ce dispositif parce que c'est très utile pour la rémunération de toutes celles et ceux qui travaillent dans le secteur culturel.
Isabelle est avec nous aussi. Merci beaucoup Sophie, je vais un peu vite parce que je sais qu'il y a beaucoup d'appels et beaucoup de questions. Franck Riester, Isabelle est en direct avec nous. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour.
Vous êtes en Seine-et-Marne, je crois.
Oui, c'est ça.
Votre question pour le ministre de la Culture.
Bien, bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour, je voulais attirer votre attention sur une profession dont on ne parle pas du tout, c'est celle de professeur d'école de danse. Que ce soit, alors moi je suis profession libérale, mais c'est vrai en contact avec mes collègues qui sont salariés d'associations, mais il n'empêche que nous avons les mêmes tracas. Le premier, c'est celui de l'aménagement de nos salles de danse. Comment faire pour faire danser des élèves de 4 à 70 ans, on va dire, en danse classique ou en danse moderne jazz? Comment faire pour de façon à ce que ça se soit conforme à ce que vous attendez des installations sanitaires? Et vraiment, c'est pour nous un grand brouillard. La deuxième question, c'est enfin, je voulais exposer aussi cette situation, c'est l'aspect financier. À la rentrée, notre grand souci, c'est quelles sont les personnes qui vont nous faire confiance pour s'inscrire pour une année entière, payer une cotisation d'une année, en ne sachant pas si 4 semaines suivantes, après la rentrée, il faudra de nouveau fermer l'école.
Franck Riester.
Ouais. Alors, d'abord, pour votre situation actuellement, vous parliez de vos collègues qui travaillaient dans les associations. Des associations peuvent bénéficier du chômage partiel, donc ils peuvent être rémunérés au chômage partiel. Vous, si vous êtes indépendante, a priori, vous pouvez avoir recours au fonds de solidarité pour pouvoir avoir une rémunération pendant la crise sanitaire. Et on travaille aux modalités d'accompagnement après la crise sanitaire, puisque vous y faisiez référence. Quant aux conditions de reprise sanitaire, c'est travaillé actuellement au sein des organisations syndicales et professionnelles et vous aurez très prochainement des recommandations précises à mettre en œuvre pour la reprise de vos cours de danse. Pour l'instant, effectivement, ce n'est pas possible, mais ça le sera si vous respectez ces préconisations, ces recommandations sanitaires.
J'ai bien compris. C'est vrai que jusqu'à présent, quand on a appelé les fédérations, que ce soit mes collègues ou moi-même, c'était vraiment le monde du silence. On n'a jamais.
Oui, c'est vrai. Ils n'avaient pas les réponses parce que ça nécessite un peu de temps d'échange, notamment aussi avec le ministère de la Santé, pour pouvoir bâtir les meilleures recommandations possibles, qui soient évidemment applicables, pour que ça soit possible de pouvoir les appliquer pour vous et qui soient les plus sécurisantes, à la fois pour vous en tant que prof de danse, mais aussi pour celles et ceux qui seront vos élèves.
Merci Isabelle. Merci beaucoup de votre question très précise et en même temps très concernante. Je pense à beaucoup de parents ou beaucoup de pratiquants tout simplement de ces cours de danse. Isabelle, profession libérale en école de danse en direct ce matin. Cette question sur le hashtag Radio Ouverte de Myriam, attachée de presse dans le cinéma, Franck Riester. On est 4 employés, pas de sortie de film depuis 2 mois, aucune rentrée d'argent. Comment va-t-on survivre? Y a-t-il des aides spécifiques prévues pour ces métiers, autour des métiers de la culture?
Oui, alors je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, les entreprises qui aujourd'hui travaillent comme dans tout secteur d'activité, mais particulièrement sur la culture, bénéficient des mesures de transversales. L'accès au chômage partiel, le prêt garanti par l'État, le report de charges et annulation de charges, puisque Gérald Darmanin et Bruno Le Maire l'ont dit, à partir du moment où ce sont des secteurs qui continuent d'être confinés, ils vont bénéficier d'aides spécifiques. C'est le fameux plan de 8 milliards d'euros complémentaires pour accompagner ces entreprises-là. Et ensuite, il y aura un plan global que j'ai appelé massif et pérenne d'accompagnement de tous les secteurs de la culture pour faire face à la crise et en sortir, parce que c'est l'avenir de notre pays en matière culturelle qui se joue.
Une question annexe, je pense en réalité à un commentaire d'un auditeur ce matin sur le hashtag Radio Ouverte, pas grave pour le cinéma puisque désormais il y a des films qui sortent directement sur les plateformes, voire en ligne. Franck Riester, ça m'inspire cette question, est-ce qu'on va revoir la chronologie des médias? Aujourd'hui, sortir un film en ligne, ce n'est pas contrevenir à nos règles?
Écoutez, alors il y a eu des exceptions qui ont été souhaitées par le ministère via le CNC pour permettre pendant le confinement à ce que des films puissent sortir en VOD ou en VOD à l'acte plus rapidement. Mais nous ne souhaitons pas revenir d'une façon profonde sur la chronologie média parce que ça permet de préserver la salle de cinéma et ça permet de préserver le financement de la création de notre pays. En revanche, Mathieu Béliard, vous avez raison, nous devons absolument veiller à ce que les nouveaux acteurs de l'Internet, les nouvelles plateformes, notamment américaines, mais aussi demain peut-être asiatiques, financent la création. Et c'est tout l'enjeu, la transposition de directives européennes, dites SMA et droits d'auteur, qui sont prévues dans le projet de loi audiovisuelle et qui devront être transposées absolument avant la fin de l'année pour permettre que ces plateformes financent des créations nouvelles. Puisque vous savez que le système français du financement de la création repose notamment sur la contribution et les obligations des diffuseurs, notamment des chaînes de télévision. Or, elles ont beaucoup moins de rentrées financières cette année. Et donc, nous devons absolument compenser ça par les investissements des plateformes numériques qui doivent financer la création française et sa diversité.
Xavier est en ligne avec nous dans le Tarn-et-Garonne. Bonjour Xavier.
Oui, bonjour Monsieur Belliard, bonjour Monsieur le Ministre.
Bonjour
Monsieur le Ministre, je suis intermittent du spectacle depuis l'an dernier. Je fais partie de ces milliers de petits musiciens qui ne font pas la une de l'actualité, mais qui vivent et qui pratiquent leur métier avec autant de passion que les stars. Parmi les mesures que vous avez déjà annoncées, il y aurait le recul de la date anniversaire pour présenter son dossier d'intermittent d'une durée équivalente à la durée du confinement. Or, en ce qui nous concerne, nous, les musiciens de la province, les plus belles dates que nous avons en général sont au printemps et au cours de l'été. Nous avions en particulier au mois de mai des concentrations de motos, à Luchon.
Oui, c'est la saison haute. C'est vrai que c'est pour le monde de la culture et ça tout le monde en a conscience. Le printemps et l'été sont une saison essentielle.
Voilà. Donc, même si on recule, pour moi, c'est la date anniversaire, c'est le 30 août. Alors, même si on recule ma date anniversaire de 62 jours, disons à fin octobre, je ne vais pas rattraper durant ces 2 mois les nombreuses dates que j'ai perdues. On m'a même annulé un festival fin juillet.
On revient avec Xavier, Franck Riester, à la question de l'année blanche.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est exactement ça. Nous avons pris dans l'urgence, encore une fois, la décision de repousser 3 mois la date, le délai pour regarder le nombre d'heures mobilisées par obtenues par les intermittents du spectacle pour pouvoir bénéficier de leur régime d'assurance chômage et leur protection sociale. Mais c'est bien évidemment des mesures que simplement d'urgence. Et nous travaillons avec Muriel Pénicaud et le gouvernement à prolonger les dispositifs dispositif pour que, notamment pendant l'été, les intermittents du spectacle ne soient pas pénalisés. Alors, est-ce que ça sera une année blanche telle que certains le disent? Je ne sais pas encore, mais oui, il y aura un dispositif qui permettra à monsieur de pouvoir continuer de bénéficier de son régime pendant la période d'été. C'est pour nous très important et c'est un plan ambitieux parce qu'on est convaincu que cet écosystème des artistes et techniciens qui bénéficient de l'intermittence est vital pour la pérennité tout simplement de la culture dans notre pays.
Franck Riester, un dernier mot. Merci Xavier, hein, intermittent du spectacle, musicien en direct ce matin avec nous. Un dernier mot, Franck Riester. Le projet de loi audiovisuel est-il maintenu? La chaîne France 4, notamment, qui s'est illustrée pour l'école à distance, va-t-elle arrêter d'émettre?
Alors, les objectifs de cette loi audiovisuelle, souveraineté culturelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les transpositions des directives européennes pour financer la création française par les plateformes, l'avenir de la télévision linéaire, gratuite, la TNT avec l'ultra haute définition qui est prévue avec des dispositions dans le texte, la question de la régulation modernisée pour lutter contre le piratage, pour protéger les publics contre les propos haineux, pour protéger les publics contre les mineurs contre un certain nombre de contenus problématiques, l'avenir de l'audiovisuel public, tous ces objectifs sont toujours essentiels et plus d'actualité que jamais. Pour autant, le calendrier exact de tout ça, je ne peux pas vous le confirmer. En ce qui concerne, parce que vous comprenez bien que le calendrier parlementaire avec la crise est modifié, pour autant, en ce qui concerne France 4 et France O qui doit normalement fermer le 9 août, j'ai demandé à France Télévisions d'avoir un plan à la fois qui permette de garantir le maintien des programmes jeunesse et outre-mer sur les grilles de France Télévisions si France O et France 4 étaient fermées au 9 août. Mais j'ai demandé aussi à ce que pourraient être ces grilles de programmes si nous maintenions ouverts France 4 et France O cet été. Et nous prendrons notre décision dans les jours qui viennent parce qu'on a vu que France 4 et France O, et notamment France 4, avaient joué un rôle majeur, notamment pour les jeunes, pour continuer d'apprendre pendant la crise et pendant le confinement.
Mais du coup, elles vont continuer ou pas France 4?
Eh bien, je vous dis, j'ai demandé Mathieu Béliard, alors même que la fermeture était prévue au 9 août, à France Télévisions de nous donner les éléments qui pourraient nourrir notre décision si jamais nous maintenions ouvert France 4 et France O après le 9 août. J'ai demandé des informations quant à ce que serait la grille de programme de France 4 et de France O. Parce que pour prendre la décision de maintenir ouvert France 4 et France O, encore faut-il savoir ce que serait proposé par France 4 et France O après cette date du 9 août.
Franck Riester, merci beaucoup et merci à tous nos
merci
auditeurs.
À vous.
Ils étaient nombreux au 39-21. Sur le hashtag Radio Ouverte, je pense à Sophie, Isabelle, Xavier, Sylvie, Bernard, Benjamin, désolé, on n'a pas pu vous prendre à l'antenne, mais Franck Riester a répondu aux questions de nos auditeurs ce matin, le ministre de la Culture. Il est 8h45.
Europe 1.
La revue de presse de Nicolas Canteloup avec Julie dans quelques toutes petites secondes. Europe 1. 8h48, déjà ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
Presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, c'est vous, Mathieu Béliard, à vous.
Oui, pardon, excusez-moi Julie. Oui, bonjour à tous, c'est Mathieu Béliard, une parenthèse, ce matin, on parle souvent des violences envers les femmes, c'est bien sûr horrible, mais parfois c'est l'inverse, c'est une femme qui maltraite un homme, et c'est arrivé il y a quelques minutes ce matin, vous l'avez peut-être entendu,
ah bon,
Sonia Mabrouk a secoué le ministre de la Culture, Franck Riester, à 8h15, n'est-ce pas Sonia?
Oui, c'est vrai que Franck Riester était mon invité, mais je dois dire, qu'est-ce qui m'a vénère, Riester? Je travaille, Madame Mabrouk, vous savez, nous travaillons, Madame Mabrouk. Oui, Madame Mabrouk, je ne sais pas, Madame Mabrouk, nous allons voir, Madame Mabrouk, nous attendons, Madame Mabrouk. Faut être prudent, Madame Mabrouk, c'est trop tôt, Madame Mabrouk. C'est un sujet compliqué, Madame Mabrouk. Oh, mais il m'a saoulé. Oh, ça y a du monde sur l'ouverture du musée Paul-Valéry Hasset ou de la Maison Monet. Mais les intermittents, ils répondent que dalle. Heureusement qu'on était à distance. C'est quoi? Pardon, j'ai un chat dans la gorge.
Oh bah c'est tellement haut la voix, faut dire.
J'avais envie de tomber ma veste Chanel et de lui en mettre une. Oh, mais alors?
Oui. Calmez-vous, Sonia, calmez-vous. Oui, on a bien centré votre agacement. On l'a peut-être perçu, Sonia. On rentre tout de suite dans le dur. L'info du jour, c'est l'école. L'école qui va devoir accueillir des enfants qualifiés de prioritaires pour le retour en classe. Alors, sont les enfants, quels sont les enfants prioritaires? Eh bien, a priori, ceux qui sont déjà devant l'école, accrochés au portail par les lanières du cartable, par des parents excédés. Vous avez l'image? On en a croisé dans les rues. Il y en a déjà qui sont accrochés. Regardez un peu autour de vous. Oui, il est temps de les reprendre. Si c'est pas la classe, ce sera la DAS. Hein, donc, faut aller vite. Et puis, l'autre info, il y a urgence. Il y a une situation d'urgence. Et puis, l'autre info du jour, on a parlé ce matin. Ce sont les mesures. Les mesures pour le monde de la culture qui seront annoncées demain. Oui, car oui, les salles de cinéma vont rouvrir. Et pour les plus sceptiques, il faut voir le positif. Hein, si vous avez déjà le Covid-19, que vous avez donc perdu le goût, eh bien, vous pourrez passer un bon moment devant une comédie française comme All Inclusive ou Les Bronzés 3. Sans corona et sans perte de goût, elle passe plus facilement sans perte de goût. Voilà, à vous Julie.
Allez, on va faire un petit point météo maintenant avec Laurent Cabrol.
C'est vrai que ça flottait ce matin, hein. Ça flottait dans l'interview de Franck Riester avec Sonia Mabrouk, ça flottait dans les réponses. Mais bon, c'est pas le sujet, la météo. Donc j'ai un petit début de... Oui, il a peut-être entendu, j'ai eu un petit début de blues hein, sur la météo de 7h30. Ben oui, j'ai failli chialer en annonçant 9, un petit 9 à Clermont-Ferrand. Bon, ça n'a pas de sens, hein. J'ai annoncé la vallée de la Lotte à 8h. Voilà, allez, je me reprends. Hein, alors, oui.
Ça me donne faim.
Voilà. Oui, la vallée de la Lotte, oui. Oh, on les arrête, hein, oui. Bon, on arrête. Allez, si on déconfine dans une semaine, on veut savoir quel temps il va faire, bien évidemment, ça, ouais. Ça vous concerne, chers auditeurs, c'est important. Ouais. Alors, c'est pas folichon partout. Hein. Par exemple, en Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, on pourra sortir hein, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques sont des départements verts, hein, mais placés en alerte jaune, hein, voire vigilance orange pour vent violent. Hein. Oh pas de problème, en revanche, pas de problème, chers amis, en Alsace, hein, le département est rouge, mais placé en vigilance verte avec un plan Vigipirate jaune. Donc si... Alors par contre, il y a une petite subtilité. Si vous habitez Orange, hein, la ville
si
la ville d'Orange.
Orange, ah bah oui,
là, ouais, pour des si vous habitez Orange, alors là ça se complique un peu.
Elle est... Ah bah oui.
Elle est en Orange est en vigilance. Orange est en vigilance jaune, hein. Dans un département vert. Bon.
Oula,
mais qui pourrait passer au...
Oh,
excusez-moi, chers auditeurs. Oui. Vous voyez, j'avais un coup de blouse et puis là, ça va mieux. Hein, donc orange, vigilance jaune dans un département vert, mais qui pourrait passer au rouge. Hein, si...
Oh, non.
Bah si, s'il y a des malades qui s'enrhument à cause des orages, d'où l'alerte bleue et le drapeau marron. Voilà. Oui, bon, là, ça devient un petit peu n'importe quoi, toutes ces conneries de couleurs.
Vraiment, oui.
Bon, écoutez, moi, j'essaye de me contenter de deux couleurs hein, que je connaissais. J'en connaissais que deux couleurs qui m'allaient très bien, c'est le blanc et puis le rouge. Hein. Ça va bien.
Merci Laurent.
Oui.
Chin-chin. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a annoncé que les lignes intérieures d'Air France seront supprimées si on peut faire le trajet en train en moins de 2h30. Alors, pour des questions écologiques, bien sûr. Bonjour Monsieur Le Maire.
Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour Monsieur Béliard. Et bonjour à vos aimables sous-fifres. Oui, je suis écologiste. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Ça vous embête pas si je... Voilà, si j'enlève mes chaussures. Parce que je voudrais mieux sentir notre mère, la Terre, Gaïa, la sentir sous mes pieds.
Oui, bon, d'accord, mais on voudrait parler de cette suppression des vols intérieurs, dites-nous.
Oui, l'avion est un moyen de transport tellement polluant. Il étouffe Mère Nature et dans le monde d'après, le coronavirus, il serait, je le crois, trop dangereux, trop coûteux aussi, disons-le, et impossible de revenir au niveau de pollution d'avant. Notre terre nourricière ne pourra pas nous donner le sein si ses nichons sont tout pollués.
Oh là là, quelle belle image, vraiment.
Je ne croyais pas dire cela un jour dans une matinale de radio.
On ne pensait pas l'entendre non plus. Hein. Alors, plus de vols si on peut faire le trajet en train en moins de 2h30, hein, c'est ça?
Oui, je crois que c'était une nécessité, pardonnez-moi.
Non.
Car nous...
Oh
Ah, la vedette Bruno Le Maire. Oh, il est écolo maintenant, Bruno Le Maire.
Monsieur Régis, monsieur Régis, notre syndicaliste SNCF, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour à tout le wagon. Bonjour, monsieur le ministre.
Oui, bonjour, monsieur Régis.
Dites donc, vous emmerdez pas Yannick Noah, là. Hein, annoncer comme ça des trajets en moins de 2h30. Et la grève, alors, on l'a fait quand, notre grève? C'est ça, on va être obligé de bosser, c'est ça l'idée? Et nos retards, on en fait quoi, nos retards? Hein, nos retards de train, c'était une belle tradition, ça. Hein, on est en train de cracher sur l'exception culturelle de la SNCF. Ça fait 40 ans qu'on met un point d'honneur à ce que les trajets durent tous plus de 2h30. Et lui, il veut tout nous foutre en l'air. Oh, la vedette.
Bon, écoutez, on imagine que vous aurez le temps de négocier. Hein. On va vous laisser tous les
deux. Oui, peace and love, monsieur Régis.
Oh là là, mais c'est pas possible. Merci, Bruno Le Maire. Allez, on va faire un tour en Allemagne maintenant. L'Allemagne qui est un peu en avance sur nous et qui a adopté une stratégie inverse de la France en matière de réouverture des écoles. Angela Merkel, c'est bien ça?
Je viens d'entendre, vous me rassurez, c'est la bonne nouvelle. Si vous faites l'inverse de nous, et c'est une bonne nouvelle. C'est que sûrement, nous, en Allemagne, on est sur la bonne voie, alors.
Si vous faites l'inverse de nous.
Oui, c'est un bon critère, un bon paramètre. Cela dit, on est sur la bonne voie, vous savez, depuis 70 ans, d'ailleurs. C'est vrai que de 1930 à 1945, on a un peu, comment vous dites, on a un peu merdé, je l'avoue.
Oui, comme vous dites, oui. Alors, chez vous, en Allemagne, ce sont les terminales qui ont repris les cours et les maternelles qui patientent. Angela Merkel, pourquoi chez vous, c'est l'inverse de nous alors?
Pourquoi? Pourquoi c'est l'inverse, Fahoum? Pourquoi? Parce que on a des réactions bizarres, nous les Allemands. Quelle est notre réflexion? On s'est dit, qui a l'examen le plus important? Le bachelier qui doit passer son bac? Ou l'enfant de 3 ans qui, au mieux, va faire un cendrier moche en pâte à modeler. Et vous, les Françaises, vous avez choisi le cendrier moche. Nous, Allemands, nous avons choisi le bachelier. Mais bon, je respecte. On est reparti pour être devant vous pour les 50 prochaines années. C'est bon d'être en concurrence avec des nuls. Je vous aime, les Français.
C'est dur, mais merci Nicolas Cantelou. Merci à Julie, la revue de presse que tous les matins avec Nicolas Cantelou. On va quand même saluer les auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivia, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. Vous retrouvez la revue de presse sur europe1.fr. Allez, déjà 8h58, à suivre un nouveau journal à 9h avec Hélène Zélani. 9h sur Europe 1, un nouveau journal avec Hélène Zélani.
Il vient prendre la température de ce qui fonctionne sur le terrain. Il va voir la réalité concrète de ceux qui, depuis un mois et demi, sans faire de bruit, permettent de sauver des vies.
Le maire de Poissy dans les Yvelines attend Emmanuel Macron, qui vient visiter tout à l'heure une école de sa commune. Carl Olive était sur Europe 1 ce matin. Le gouvernement à l'écoute des petits commerçants. Leur charge patronale pourrait être annulée pour mars, avril et mai. Décryptage d'Emmanuel Dutheil dans un instant. Le retour des salariés en entreprise se prépare. Beaucoup de mesures sanitaires à mettre en œuvre.
Nous, ça va être très compliqué. C'est toute une organisation. On dort pas bien. Mais on va y arriver. Voilà, on va y arriver.
Et puis, nous nous sommes intéressés au profil des personnes hospitalisées en réanimation. Avec le confinement, beaucoup moins de patients jeunes.
Les quelques patients qui arrivent en réanimation sont plutôt des personnes âgées. On retrouve un petit peu le profil des patients qu'on avait au début.
Et juste après ce journal, Mathieu.
J-6 avant le 11 mai, déconfinement du monde du travail progressif. Quels sont les droits et les devoirs des employeurs et des salariés? Échange avec l'avocat d'Europe 1, Roland Pérez, jusqu'à 9h30. Je vous attends au 39-21.
Europe 1, écoutez le monde changer.
La date du retour à l'école se rapproche, il sera très progressif, on l'a compris, avec d'abord les élèves prioritaires. Seulement 15% seront accueillis à Paris, par exemple, et à partir du jeudi 14. Ce matin, Emmanuel Macron est attendu dans une école de Poissy, dans les Yvelines. Accompagné de Jean-Michel Blanquer, il va faire le point sur la préparation du déconfinement. Carl Olive, maire de Poissy.
Il vient prendre la température de ce qui fonctionne sur le terrain. Il va voir la réalité concrète de ceux qui, depuis un mois et demi, sans faire de bruit, sans s'extasier, eh bien, permettent indirectement, j'allais presque dire directement, aussi à leur manière de sauver des vies. Vous savez, on accueille les enfants de 7 heures pour les personnels soignants, avec encore une fois les animateurs et le personnel de la ville, les ATSEM, jusqu'à 19 heures, avec toutes les conditions sanitaires requises. Donc je pense qu'il vient effectivement regarder comment concrètement ça se passe sur le terrain et aussi, moi j'en suis ravi, mettre en lumière encore une fois celles et ceux qui depuis un mois et demi sont à l'ombre.
Carl Olive, le maire de Poissy, qui accueillera Emmanuel Macron tout à l'heure à 10h. Il était votre invité ce matin, Mathieu.
Un geste pour les petits commerces. C'est le journal Les Échos qui le révèle ce matin. Leur charge sur 3 mois devrait être annulée.
Oui, cette mesure doit être annoncée par le gouvernement d'ici quelques jours. Une vraie bouffée d'air pour de nombreux petits commerçants, Emmanuel Dutheil.
Oui, hein, ce sont les entreprises de moins de 10 salariés qui ont dû baisser le rideau à cause du confinement qui devraient être, selon Les Échos, concernées par ces annulations de charges. À Bercy, on confirme ce matin travailler sur un tel dispositif. Il faut dire que dès hier, dans son discours devant le Sénat, le Premier ministre a ouvert la voie à une telle possibilité. Pour le moment, cette mesure choc avait été évoquée, notamment sur Europe 1, par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, que pour le secteur de la restauration. Là, ce serait donc beaucoup plus large. Un secteur comme celui de l'habillement, qui compte beaucoup de petites boutiques indépendantes, pourrait en bénéficier. C'est-à-dire que ce secteur craint de nombreuses faillites après la crise. Mais là, on parle de mesures d'urgence. Le gouvernement travaille aussi sur un plan de relance économique beaucoup plus large, un plan attendu à la rentrée pour tenter d'aider notamment les entreprises à se relever.
Emmanuel Dutheil.
Dans les entreprises, petites ou plus grandes, le temps presse pour accueillir les salariés en respectant des consignes du ministère du Travail.
4 mètres carrés minimum par personne, dans les bureaux mais aussi dans tous les lieux communs, salles de réunion ou cantines. Reportage de Pierre Herbulot dans un cabinet parisien de géomètres experts où on a encore du pain sur la planche.
C'est des petits chiffons.
4 mètres carrés par salarié, ok. Stock de masques, ok. Produits désinfectants, ok.
Plein de gel.
Le protocole du gouvernement sous le bras, Valérie, la gérante, termine un énième point dans l'open space.
Voilà, c'est toute une organisation. On dort pas bien. Mais on va y arriver, voilà, on va y arriver.
Seul problème avec les nouvelles consignes, les sens uniques de circulation.
Nous, ça va être très compliqué, donc je pense qu'on est tous responsables au cabinet. Donc ce qu'on va faire, c'est que quand vous avez un couloir qui ne fait pas plus d'un mètre, on n'a pas besoin d'avoir un petit autocollant sur le sol, puisqu'on ne va pas se croiser, donc on va attendre.
À part ça, tout est prêt. Un agent Covid sera même nommé pour penser à aérer les pièces et rappeler encore et encore les bonnes pratiques. 7000 euros ont déjà été dépensés par l'entreprise de 35 salariés. Bien préparer la presse, c'est la seule obsession de Fabien, le co-gérant.
Oui, c'est chronophage. Non seulement pour les heures de travail, et le soir, je relance à la maison aussi, parce que j'ai plus de temps. Commander des masques, c'est vraiment très difficile. Tous les produits sont difficiles à obtenir. On a reçu des commandes, on en attend encore, et je relance tous les jours, je regarde les fournisseurs, et je relance, et j'attends.
Mais malgré tous ces efforts, certains salariés ont déjà fait part de leur réticence à retourner physiquement au travail.
Un reportage signé Pierre Herbulot. Hier, le Sénat a donné son feu vert à un dispositif pour que la responsabilité pénale des employeurs ne puisse pas être engagée. Dispositif qui doit aussi protéger les élus locaux et les fonctionnaires. Les sénateurs qui ont refusé de valider la stratégie de déconfinement du gouvernement. Aujourd'hui, ils doivent voter le projet de loi qui prolonge l'état d'urgence sanitaire.
9h05 sur Europe 1. Le cap des 25 000 morts est désormais dépassé en France. En revanche, point positif, le nombre de patients en réanimation continue à baisser. 123 de moins en 24 heures.
Victor Dolande, vous êtes penché sur le profil de ces malades en réanimation. Il a clairement évolué ces dernières semaines.
Au tout début de l'épidémie, dans les services de réanimation, on trouvait principalement des personnes fragiles, très souvent âgées ou atteintes déjà d'autres maladies et donc plus vulnérables. Entre fin mars et mi-avril, au plus fort de la contagion, le profil des patients a étonné les spécialistes. Beaucoup plus de malades jeunes, sans aucune comorbidité. Et depuis 2 à 3 semaines, le profil a encore évolué, assure Gilal Yanan, chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches.
On retrouve un petit peu le profil des patients qu'on avait au début. Quelques patients qui arrivent en réanimation sont plutôt des personnes âgées, voire très âgées, en particulier venant des EHPAD, ou des personnes qui ont des pathologies associées lourdes.
Et Et c'est une bonne nouvelle, une de plus, ça veut bien dire que l'épidémie recule. Autre point positif, l'expérience accumulée dans tous les services de réanimation. On a fait des progrès considérables et il faut le reconnaître, me confie un médecin réanimateur. On est beaucoup plus sélectif avant de placer quelqu'un sous respirateur artificiel. La conséquence, c'est qu'il ne reste aujourd'hui en réanimation que les cas les plus sévères, avec des séjours encore plus longs qu'avant, qui peuvent aller jusqu'à 4 ou 5 semaines.
Victor Dolande, pas de changement dans la carte publiée tous les soirs et qui deviendra définitive jeudi. 50 départements sont en vert, 19 en orange et 32 en rouge, dont Mayotte, où le déconfinement est reporté, car le virus circule activement. Dans l'actualité également, la mort d'un soldat français au Mali, le deuxième en 4 jours au sein de la force Barkhane au Sahel. Ce légionnaire de 21 ans a été tué lors d'une opération de lutte contre des groupes djihadistes. Tous les bureaux de poste doivent rouvrir d'ici la fin mai. Les tournées seront progressivement rétablies le samedi à partir du 11. Un service de collecte de courrier à domicile sera également mis en place pour les personnes isolées et fragiles. Et puis le ministre de la Culture promet de protéger les intermittents sur le temps long. Franck Riester, invité d'Europe 1 ce matin, souhaite également que les salles de cinéma puissent rouvrir. Emmanuel Macron doit annoncer des mesures demain pour soutenir le monde de la culture.
Merci beaucoup Hélène Zellani, c'était le journal de 9h sur Europe 1. Dans un tout petit instant, on va retrouver Fanny Agostini pour le rendez-vous à la ferme d'Europe 1. On va parler de moustiques. Vous savez quoi? J'ai cru qu'il y avait une pub, mais non, il n'y en a même pas. On enchaîne, on est directement avec Fanny Agostini du côté de la Haute-Loire à Boisset pour le rendez-vous à la ferme. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu.
Alors Fanny, alors que les températures qui s'adoucissent permettront dans quelques semaines le retour d'une espèce emblématique des beaux jours, pourtant loin de faire l'unanimité, j'en parlais, le moustique.
Le moustique, Mathieu, qui rappelons-le, est l'animal le plus meurtrier pour l'homme. 7 millions de morts par an, loin devant les requins, les lions ou les crocodiles. Les moustiques tueurs qui ne sont qu'en fait qu'une petite minorité, car seuls 6% des 3500 espèces de moustiques se nourrissent de sang humain. Et ce chiffre est encore divisible par deux, puisque seules les femelles sont hématophages. Je vais même, pour vous ce matin, vous en vanter les qualités de ce moustique. D'abord, sachez qu'ils font partie d'un maillon essentiel de la chaîne alimentaire, car ils servent de nourriture à de nombreuses espèces. Sans moustiques, nous observerions un effondrement incroyable du nombre d'oiseaux, de poissons, de reptiles ou encore de mammifères et d'insectes. Il y a même l'entomologiste américain Bruce Harrison qui en est venu à la conclusion que si les moustiques venaient à disparaître, le nombre d'oiseaux chuterait de plus de 50%.
Et Fanny, vous nous dites aussi que les moustiques sont une aide à la médecine ?
Oui, on a remarqué qu'afin de faciliter la remontée du sang dans la trompe, les femelles moustiques injectent un anticoagulant particulièrement efficace qui pourrait permettre de développer des traitements plus adaptés aux maladies cardiovasculaires. Le moustique a même permis de créer une seringue dernier cri dont la finesse permet de faire des injections complètement indolores pour les patients.
Mais ce n'est pas tout, le moustique est aussi un insecte pollinisateur.
Et ça, c'est beaucoup moins connu, Mathieu. Les moustiques sont adeptes des petites fleurs inaccessibles aux gros diptères. Les moustiques, d'ailleurs, comme les fourmis, sachez-le, sont les principaux pollinisateurs du cacaoyer. Un monde sans moustiques signifierait donc un monde sans chocolat. Il a presque tout pour lui, finalement, ce moustique. De quoi aborder la saison estivale avec un autre regard sur lui.
Non mais mon laisse des mosquitos. Non mais mon laisse des mosquitos. Non, mais bon, laisse-moi.
Merci Fanny Agostini. On termine avec Joe Dassin. On apprend des choses au contact de la nature tous les matins. On va essayer d'aimer le moustique alors, après vous avoir écouté le rendez-vous à la ferme d'Europe 1, à retrouver sur Europe1.fr. Merci Fanny Agostini. Simplement vous dire un mot sur cette matinale prolongée de Bilal Hassani qui sera l'invité de Philippe Vandel ce matin entre 9h30 et 11h. Bilal Hassani que vous avez connu lors de l'Eurovision l'an passé et qui sort un nouveau single. Je note aussi un autre rendez-vous dans Culture Média, c'est la matinée qui continue sur Europe 1. Philippe Vandel reçoit Guillaume Canet. Guillaume Canet comme invité média, Guillaume Canet qui lance une plateforme à la Netflix, mais un Netflix agricole. Vous l'entendrez avec Philippe Vandel tout à l'heure. 9h10 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et profitez bien de cette matinée à l'écoute d'Europe 1, hein, parce que vous n'avez pas trop envie de sortir et en plus vous n'avez pas le droit. Alors donc on est bien à la maison, à l'écoute de la radio, de notre radio, et pour vous dire que Bon allez, cherchons les éclaircies. Il y en aura sur le littoral atlantique, le Poitou-Charentes, le sud-ouest, sur le bassin méditerranéen, des éclaircies qui vont apparaître après les brumes et les brouillards. Cherchons maintenant l'humidité qui fera plaisir aux moustiques. Il y en aura sur la Normandie, la région parisienne, la Bourgogne, le centre et la Franche-Comté. Cherchons quelques tranches de soleil, allez, une petite tranche nord, Champagne-Ardenne, Lorraine-Alsace. Et puis sur des régions comme le Poitou-Charentes, l'amélioration sera présente dans le courant de la matinée, comme sur la vallée de la Loire et la région Rhône-Alpes. Température aujourd'hui, 15 à 22 degrés au nord. Vous voyez que ça baisse un petit peu, hein. 21 à Paris notamment, 22 à Strasbourg, mais il fera encore très chaud dans les régions du sud-ouest avec 31 à Bayonne et Dax, un peu moins chaud qu'hier. Nous n'étions pas loin des 35, mais enfin il fera chaud. Et demain, mercredi, comme jeudi et vendredi, seront des journées franchement agréables. Alors là, nous renouons avec l'été après cette petite parenthèse printanière ou automnale d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Laurent Cabrol, il est 9h12 sur Europe 1.
Europe 1.
Dans quelques toutes petites secondes, on va retrouver Roland Pérez. Parce que ces questions de déconfinement du monde de l'entreprise, du monde du travail, que l'on soit entrepreneur, patron, que l'on soit salarié, évidemment, ces questions, elles dépassent le cadre classique du droit du travail. On est en état d'urgence sanitaire. Quels sont mes droits et mes devoirs, que je sois patron ou salarié? Les réponses de Roland Pérez, l'avocat d'Europe 1, à vos questions au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. C'est tout de suite.
Mathieu Béliard.
Vous êtes sur Europe 1, la radio ouverte à vos côtés en ces temps de confinement, bien sûr, et de déconfinement aussi. Dans 6 jours, c'est le 11 mai. Alors, ne marquons pas trop cette date, le 11 mai, vous avez compris que ce serait très progressif, qu'il y a beaucoup de domaines où il s'agit de volontariat. Mais n'empêche, on a le 11 mai et on a 6 jours pour se poser ces questions juridiques ce matin en termes de droit du travail. Bonjour Roland Pérez.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes l'avocat d'Europe 1, notre conseiller juridique à l'antenne, et Dieu sait qu'on a besoin de vous. On dépasse, simplement avant de prendre les questions de nos auditeurs, on dépasse le cadre classique du droit du travail, Roland Pérez.
Oui, je dois dire que là, c'est un véritable défi qui s'ouvre aux employeurs et aux salariés. Les employeurs et les salariés ont peur, je crois, de revenir et d'organiser ce fameux 11 mai. Les employeurs ont une lourde responsabilité qui a été rappelée à maintes reprises pour l'organisation aujourd'hui de cette reprise du travail. Et les salariés aussi doivent vaincre leur peur aujourd'hui de prendre des transports en commun, de venir travailler, de côtoyer leurs collègues, de respecter ce protocole national de déconfinement qui va être mise en place avec des directives quand même qui sont relativement drastiques quant à l'organisation du travail, du flux des personnes, de la distanciation, de l'équipement éventuel individuel que devront porter les salariés, du contact avec les clients. Tout cela est un véritable défi et c'est une véritable, sincèrement, peur pour tout le monde.
Alors, ben, vous avez fait le sommaire, Roland Pérez, si j'ose dire, des 10 minutes qui viennent. Commençons avec Karima sur le hashtag Radio Ouverte. Le temps de transport, le déplacement domicile-travail, c'est aussi de la responsabilité de l'employeur, non. Si mes salariés ne peuvent pas se déplacer dans le respect des règles sanitaires et qu'ils ne peuvent pas télétravailler, je fais quoi, moi, nous dit Karima.
Oui, c'est-à-dire qu'il va falloir que entreprise par entreprise, le chômage technique, le chômage partiel puisse encore s'appliquer. Le ministère du Travail ne l'a absolument pas exclu, même si après le 1er juin, Madame Pénicaud a semblé dire que les entreprises devraient rouvrir, sauf celles qui sont encore visiblement interdites, mais celles qui doivent rouvrir doivent s'organiser. Mais si ce n'est pas possible, s'il y a une véritable impossibilité, à ce moment-là, au cas par cas, le chômage partiel pourra encore être de mise pour certaines entreprises, pour certains salariés, pour certains postes également. Tout cela va être fait au cas par cas.
Alors, je note aussi qu'Alain Griset, qui représente les entreprises de proximité, qui était mon invité à 6h40, demandait à ce que le dispositif de chômage partiel soit prolongé. Julien nous écrit, est-ce que mon employeur peut m'obliger à arrêter le télétravail et à venir sur mon lieu de travail?
Oui, absolument. Autant l'employeur peut imposer le télétravail pendant cette période, autant le télétravail devra et pourra éventuellement cesser. C'est-à-dire que l'employeur pourra demander à son salarié de venir. En même temps, on le sait aujourd'hui et on le voit avec l'inquiétude des employeurs et des entreprises et sur leurs responsabilités pénales et civiles qui pèsent sur cette fameuse obligation de moyens dont on parle depuis pas mal de temps, depuis le début de ce confinement. Il faut savoir qu'il n'accompagne pas l'employeur employeur de garantir l'absence de toute exposition des salariés à des risques, mais juste d'éviter le plus possible cette exposition et d'évaluer les risques. Donc à partir du moment où, avec ce protocole de déconfinement, l'employeur semble, avec les organisations représentatives, syndicales, avec le comité social, tout a été mis en place, ou en tout cas tout a été tenté pour être mis en place, et que toutes les garanties ont pu être données, normalement le salarié ne pourra pas exiger de rester en télétravail. Oui, mais... même si, on le sait, le gouvernement l'a martelé, au moins pour les 3 semaines qui vont suivre le 11 mai, le conseil qui est donné aux entreprises, le temps de s'organiser et de privilégier, quand cela est encore possible, le télétravail des salariés.
Mais pardonnez-moi, j'insiste, et je ne sais pas quelle est l'activité de Julien, il ne l'a pas précisé, mais on a le Premier ministre qui nous dit qu'il faut privilégier le télétravail quand c'est encore possible, et en même temps on a ces injonctions à relancer l'économie. Je me mets à la place du salarié qui dit, moi je peux très bien travailler, là pourquoi est-ce que je me déplacerais, pourquoi est-ce que j'irais dans les transports en commun, alors que je ne sais pas si c'est le cas de Julien, hein, j'extrapole à travers sa question, mais y a quand même un problème de consigne qui manque de clarté.
Oui, mais Mathieu, il faut comprendre que l'entreprise ne va jamais rouvrir si à chaque fois tous les salariés disent « je veux rester en télétravail ». Donc à un moment donné, il va bien falloir qu'on ait une règle qui s'applique à tous, sauf si encore une fois, Julien, c'est probablement pas son cas, est malheureusement un salarié vulnérable, il aurait une affection de longue durée, ou un proche avec lequel il vit aurait une affection de longue durée, donc c'est un cas particulier. Mais si ce n'est pas le cas, il faut bien qu'à partir du moment où on dit que les entreprises rouvrent, même si elles doivent rouvrir progressivement, même si elles doivent mettre en place toutes ces mesures que ce protocole de 20 pages a tenté de mettre en place, il faut bien que cette règle soit appliquée pour tout le monde. Donc évidemment que l'employeur pourra imposer à ce qu'il soit mis fin au télétravail, même si encore une fois, le gouvernement dit faisons-le progressivement, ne faisons pas rentrer tout le monde le 12 mai, faisons en sorte qu'il y ait peut-être une redistribution des tâches, une redistribution des horaires, une redistribution des personnes qui vont venir travailler, peut-être qu'il va y avoir un mi-temps pour certains salariés en télétravail qui pourront venir l'autre mi-temps. Enfin, voilà, il y a toute une on va repenser évidemment la distribution et l'organisation du travail, mais pour autant, il y a une reprise qui est annoncée, et on le sait aussi, le ministère de l'économie ne va pas soutenir, en tout cas au-delà du 1er juin, ce qui est certain, c'est que le chômage partiel au-delà du 1er juin, sauf circonstances exceptionnelles qu'on vient de voir avec une autre question tout à l'heure, le chômage partiel devrait peu ou prou s'arrêter.
Voilà pour la question de Julien. On est allé un peu plus loin que sa question. Sur le hashtag Radio Ouverte, il y a également Fabien qui nous dit « Je suis patron d'une petite boîte. J'ai 15 employés, mais absolument pas la place de les réaccueillir avec les règles imposées par le ministère. » Alors, beaucoup de remarques au sujet de ces 4 mètres carrés. Aucune dérogation possible, nous dit Fabien.
Alors si, la dérogation, c'est justement l'équipement de protection individuelle, c'est-à-dire que il est bien dit dans le protocole de déconfinement que quand ce n'est pas possible, quand la distanciation sociale est impossible, parce qu'on le sait, on a calculé des surfaces qui sont des surfaces résiduelles, c'est-à-dire qu'on a la surface de l'espace de travail et puis il y a la surface effective qui va être occupée par les personnes, par les salariés, par les clients, par les fournisseurs, par les prestataires, enfin tous ceux qui vont occuper cet espace-là. Donc là, quand on divise tout ça et avec cette règle des 4 mètres carrés, on arrive à très peu de personnes présentes dans le même espace. Donc dans ce cas-là, quand c'est pas possible, on vous dit qu'il faut privilégier l'équipement de protection individuelle, que sont évidemment les masques grand public, pas les masques destinés au personnel médical, mais les masques grand public. Et puis, s'il le faut, alors pas des gants, puisqu'on nous dit aujourd'hui que les gants seraient une fausse protection et qu'il faudrait faire attention, mais en tout cas, on peut prévoir peut-être des surblouses, des charlottes, enfin ça dépend aussi de l'activité que l'on exerce, mais en tout cas le masque semble être la solution préconisée quand la distanciation n'est pas possible.
Mihail, je prononce ainsi, c'est écrit à la russe, Mihail nous écrit « Je m'adresse à qui ?» C'est la même thématique. « Je m'adresse à qui pour me plaindre si j'ai pas mes 4 mètres carrés ?»
c'est toujours c'est-à-dire pareil.
Je comprends dans la réponse de Fabien, à la question précédente, pardon, Roland Pérez, que ces 4 mètres carrés ne sont pas inscrits dans le marbre, c'est pas un droit du salarié qui va reprendre le travail.
Non, en fait, ce protocole de déconfinement, c'est pas non plus un texte de loi, c'est pas non plus une ordonnance, il n'y a pas de sanction. La sanction, c'est évidemment la responsabilité dont se plaignent les employeurs et les entreprises, on dit qu'ils craignent d'ailleurs cette responsabilité pénale de ne pas pouvoir respecter cette obligation de moyens, de sécurité de ses salariés. Ils vont devoir faire avec, mais il n'y a pas de sanction inscrite dans ce protocole de déconfinement. Donc ça veut dire que, est-ce que le salarié pourrait dire, j'ai pas de 4 mètres carrés, j'exerce mon droit de retrait, je ne viens pas travailler dans ce cas-là, ça va pas être possible non plus, puisque je vous dis, dans ce protocole de déconfinement, il est indiqué que quand ce n'est pas possible, à l'impossible, nul n'est tenu, si ce n'est vraiment pas possible, il va falloir faire en sorte d'abord de mettre moins de personnes dans ce cas-là, peut-être que l'employeur devra faire venir retourner moins de salariés immédiatement sur au siège, ou organiser pour qu'il y ait un flux différent de présence dans l'entreprise, et puis surtout avoir ce masque. Donc la réponse est aujourd'hui cet équipement de protection individuelle.
Je me souviens, il y a quelques jours sur Europe 1, nous avions reçu Antoine Frérot, le patron de Veolia, qui me disait il faut que le salarié se sente plus en sécurité sur son lieu de travail que n'importe où ailleurs, même que chez lui, c'était son objectif dans le déconfinement. Parce qu'il risque d'y avoir des tensions, il risque d'y avoir des conflits, et cette question m'amène naturellement à celle de la responsabilité de l'entrepreneur. On a beaucoup parlé des maires et de la responsabilité pénale des maires. Aujourd'hui, je repose la question, est-ce que l'employeur est tenu à une obligation de moyens ou à une obligation de résultats ?
C'est toujours cette même réponse que je vais vous faire, Mathieu. C'est en droit, en tout cas, c'est l'obligation de moyens renforcée, c'est-à-dire que c'est à mi-chemin entre l'obligation de moyens classique et l'obligation de résultat. Moi, je vous dirais qu'en tant que juriste, encore une fois, il n'incombe pas à l'employeur de garantir l'absence de toute exposition. Il ne le peut pas. On est en pandémie, on est en risque quand même qui est extrêmement sérieux avec toutes les mesures qui ont été prises depuis l'arrivée de cette pandémie mondiale. Donc, il ne peut pas garantir l'absence de toute exposition des salariés à des risques. Il doit, en revanche, c'est son obligation, et là c'est l'obligation renforcée de moyens, il doit les évaluer, il doit les éviter le plus possible, ces risques, il doit suivre les recommandations qui sont faites aujourd'hui par le gouvernement, il doit prendre toutes les mesures utiles pour protéger ses salariés. Voilà, donc si tout cela est fait, je pense qu'on ne pourra pas mettre en cause la responsabilité de l'employeur. Évidemment, les syndicats vont être là pour faire en sorte que cela puisse être respecté. Évidemment, l'inspection du travail est là pour toute plainte ou toute réclamation qui pourrait être fait par les salariés. Il y a le médecin du travail aussi qui est là pour écouter les doléances des salariés. Encore une fois, il faut
ouais, Roland Pérez, j'avais aussi Nicolas qui demandait, alors je ne sais pas si ça va dans le même sens ou si c'est une autre question, c'est vous qui me le direz. Est-ce qu'on peut solliciter l'inspection du travail pour être sûr de revenir dans les bonnes conditions? Ça a du sens?
Non, l'inspection du travail, elle va être là pour constater qu'il n'y a pas eu précisément il y a un non-respect, on va dire, de ce protocole de déconfinement et que l'employeur n'aurait pas mis en place toutes les mesures. Mais avant de le solliciter, on peut pas le solliciter de manière préventive. On va le solliciter de manière, on va dire, post constatation de ce qui n'aurait pas été fait par l'employeur. Non, il faut quand même privilégier le dialogue. L'employeur n'a vraiment aucun, enfin, on se doute bien que l'entreprise n'a aucun intérêt à faire revenir ses salariés dans des conditions qui ne les protégeraient pas, puisque de toute façon, peu ou prou, ils pourraient tomber malades, ils pourraient se retrouver sans force vive pour travailler. Donc ils ont tout intérêt à respecter ces mesures. Le seul problème est de savoir s'ils peuvent y arriver, dans quelle mesure ils peuvent y arriver, et quels sont les moyens qui s'offrent à eux pour respecter ce fameux protocole de déconfinement.
Merci beaucoup Roland Pérez. Merci d'avoir répondu à nos auditeurs. Je pense que dans les semaines qui viennent, on va se retrouver. Hein. Vous êtes l'avocat d'Europe 1, spécialiste juridique. On a besoin de vous. De temps en temps, une petite piqûre de rappel des questions de droit qui se posent. En tout cas, nos auditeurs se posent beaucoup de questions. Merci beaucoup, Roland. Ils ont été nombreux au 3921 sur le hashtag Radio Ouverte à intervenir aujourd'hui. Et ce sera encore ainsi demain sur la Radio Ouverte, évidemment. Pour l'heure, je vous laisse avec Philippe Vandel pour Culture Média. Je vous l'ai dit, Bilal Hassani, Guillaume Canet parmi les invités. C'est la matinée qui continue. Moi, je serai là demain matin, évidemment en direct à partir de 6h sur Europe 1. Vous le savez, d'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.